commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par elle, et en elle était la vie, la lumière des humains. En Christ, cette parole a habité parmi nous, pleine de tendresse et de fidélité. Et à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont foi en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que la grâce de Dieu, la tendresse de Dieu et la paix de Dieu soient ainsi sur chacune et chacun, sur les hommes et les femmes, sur les enfants réunis en son nom en ce jour de Noël tout autour du monde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, car sa bienveillance dure pour l'éternité. Et grand merci de pouvoir ainsi être ensemble pour chercher ensemble à nouveau quel est l'évangile de Noël pour nous et pour le monde. Alors je vous propose de commencer dans le vif du sujet en chantant ensemble le cantique 112 dans le petit recueil « Louanges et prières » aux nuits bienveillantes, aux nuits rassurantes du premier Noël. Vous pouvez prendre place. Lorsque le temps est venu, Dieu a envoyé son Fils. Il a tellement aimé le monde qu'il nous l'a donné afin que quiconque ait foi par lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternisée par son amour qui garde chacune et chacun comme s'il était l'unique enfant. Ésaïe s'écriait : les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité envahit les peuples. L'Évangile annonce : le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort. Un ami de Job interrogeait anxieusement : ah, si Dieu voulait parler, s'il révélait les secrets de sa sagesse. L'Évangile proclame : oui, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de tendresse et de fidélité, pleine d'amour et de vérité. Le prophète Jérémie suppliait : ô Éternel, délivre tes enfants. Et l'Évangile rend grâce à Dieu : oui, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné vraiment un puissant sauveur. Le psalmiste implorait dans sa prière : ô Éternel, abaisse les cieux et descends nous visiter. Et Jésus déclare : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui. Nous prions Dieu. Oui, Père éternel, merci de tout renouveler en cette nuit de Noël, de renouveler chacun de nous, d'éclaircir notre foi, notre espérance et notre amour. Merci de garder dans ta paix nos cœurs alourdis. Merci de nous donner encore la fraîcheur d'une aurore pour ressusciter nos vies. Merci de faire renaître ton amour toujours en nous, comme si pour la première fois, nous découvrions que tu nous aimais. Nous découvrions quelle merveille nous sommes en vérité et combien la vie est belle, ici-bas. Merci Éternel d'être notre paix, d'être notre joie et d'être notre salut en Jésus-Christ, dès maintenant, ici en ce monde et pour l'éternité. Amen. Alors après cette attente des prophètes, de Job, des psalmistes, je vous propose de chanter le cantique 103, toujours dans notre recueil louanges et prières, d'un arbre séculaire du vieux tronc d'Isaïe, pour s'ouvrir par le chant à cette attente du salut. Vous pouvez prendre place pour entendre l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 1er, le récit donc de l'annonce de la naissance de Jésus à Marie. Au sixième mois, donc de la grossesse d'Élisabeth, sa cousine, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge qui était fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et il lui dit, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie répondit à l'ange, « Mais comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car avec Dieu, rien n'est impossible. » Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. En ces jours-là, Marie se leva et elle s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli de joie dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Puissant a fait pour moi des merveilles. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le cherchent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de biens les affamés, il a renvoyé à vide les riches, il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, exactement comme il l'avait annoncé à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. » et au chapitre 2 du même évangile, la naissance de Jésus. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient donc se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Il y alla afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et qui disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie, elle, conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Alors les bergers s'en retournèrent en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Ce Jésus a changé la face du monde, profondément. Alors Jésus n'était pas forcément très sympathique au sens où on aimerait partir en vacances avec lui ou bien l'inviter pour le réveillon de Noël. En effet, Jésus était impressionnant, impressionnant de liberté, de charisme, de force intérieure et d'énergie. Mais précisément, finalement, à cause de cela, de cette intensité, vraiment, j'aurais aimé, et je pense que beaucoup, auraient aimé le voir bouger, voir son regard, voir l'entendre parler, l'entendre enseigner, peut-être raconter des paraboles qui ne sont pas dans les évangiles, les quelques paroles qui nous sont parvenues. Alors oui, j'aurais aimé voir et entendre ce Jésus de Nazareth. Mais peut-être pas quand il était bébé, parce que si vous voulez un bébé, quand c'est le sien ou quand c'est le bébé de quelqu'un qu'on aime, qu'on connaît, c'est génial, c'est merveilleux. Quand c'est un bébé de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ce n'est pas passionnant, juste une bonne bouille à voir et puis peut-être des cris. Mais pourtant, les bergers arrivent à voir dans ce bébé et savent reconnaître cet incroyable germe de nouveauté, de foi, d'amour et d'espérance pour le monde, pour nous, et qui va profondément marquer l'histoire de l'humanité. Donc, bravo aux bergers, ce n'était pas évident. Alors, comment ont-ils fait ? Nous l'avons entendu, premièrement, ils sont avertis par un ange bien serviable qui leur rend visite dans les champs, au fin fond de la campagne, et qui prend en plus la peine de se faire accompagner par une chorale formée d'un millier d'angelots et d'angelettes. Deuxièmement, les bergers se bougent. Avec leur troupeau de moutons, sans doute, comme auraient-ils fait autrement ? Ce qui n'est pas très très commode en ville, en fait, d'arriver avec son troupeau de moutons, tout ça, dans Bethléem. Bon, et quand même, ils se bougent avec leur troupeau de moutons et ils se débrouillent pour dénicher l'endroit improbable où Jésus crèchait, c'est le cas de le dire, grâce aux indications de l'ange, qu'ils ont bien entendu, bien eux. Troisièmement, eh bien, les bergers s'en retournent dans leur vie de berger, mais enthousiasmés et partageant leur joie avec les gens. Donc, bravo pour ces bergers. Et c'est un exemple à méditer pour nous chaque Noël, et voilà, en fait, dans la lecture de l'Évangile, dans notre prière, à nous de jouer. En effet, cette histoire, comme toutes les histoires de la Bible, ne sont pas données pour nous apprendre l'histoire, mais pour nous apprendre la vie, pour nous apprendre notre vie, la vraie vie, la vie vivante, la vie source de vie. Alors, comment faire avec un Jésus qui... en tout cas n'est plus sur terre, qui a vécu il y a 2000 ans. Et de toute façon, quelle importance de voir ce bébé Jésus, qu'est-ce qu'il pourrait bien nous apporter ? Alors il y a bien des réponses à cette question pour arriver à trouver ce bébé Jésus, se rendre présent à ce bébé Jésus. Pour le chercher, je vous propose de suivre dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, un passage où Jésus nous dit que oui, en vérité, encore aujourd'hui, dans notre existence toute quotidienne, nous pouvons visiter Jésus. Et donc c'est au chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu. Je vais vous lire les versets 31 à 40. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, et il mettra les boucs à sa gauche. Et alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Ah, venez, vous qui êtes bénis de mon Père !» Recevez donc en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors les justes, tout étonnés, répondront, « Mes seigneurs, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand est-ce que nous t'avons vu étranger et nous t'avons recueilli ? Ou nu et nous t'avons vêtu ? Quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi ? Et alors le roi leur répondra, « en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela, à l'un de ces plus petits d'entre mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit Jésus. » Et pour laisser le temps, voilà, de méditer un petit peu à chacun ces paroles de l'Évangile, je vous propose de chanter donc le cantique 101 dans votre petit recueil, toujours louange et prière. « Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez. » Donc les strophes, je vous pose les trois premières strophes de ce cantique au peuple fidèle. Ô Dieu notre Père, tu viens vers nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens vers nous dans la tendresse et dans la fidélité. Tu viens vers nous dans la profondeur de l'être, dans un mouvement neuf, dans la créativité. Alors donne-nous la joie de découvrir en Jésus-Christ un chemin nouveau, un chemin de vie. Il nous conduit vers toi pour y vivre dans la joie de l'Esprit et dans l'amour qui défie les siècles des siècles. Jésus nous dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, malade, vous m'avez visité ou en prison. Et il ajoute, chaque fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits entre mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc cela nous donne une piste pour suivre les bergers et faire même plus et mieux qu'eux, puisque eux, ils ont seulement visité. Et donc c'est faire, selon ce texte, comme les bergers, mais en plus comme Marie et comme Joseph, en même temps. Alors comment faire? Cela commence par trouver un des plus petits entre ses frères et sœurs, les frères et sœurs de Jésus. Comment faire? Nous savons que Jésus a eu des frères et sœurs, en particulier nous connaissons Jacques et Jude, puisqu'ils ont écrit des lettres qui ont été conservées dans la Bible. Mais les frères et les sœurs de Jésus sont eux aussi morts depuis déjà un bout de temps, pratiquement 2000 ans. Ça fait si longtemps qu'on ne risque pas non plus d'aller les visiter pour leur apporter à manger et à boire. Mais de toute façon, Jésus ne parle pas de ces frères et ces sœurs-là, bien sûr. Il précise ailleurs dans l'Évangile ce qu'il entend par frères et sœurs. C'est dans un épisode, quelques chapitres avant celui que je vous ai lu, Jésus était en train de parler à une foule. Et il étend la main vers les disciples qui étaient dans la foule et il dit « Voici ma mère et voici mes frères ». En effet, dit-il, « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère ». Alors déjà, c'est plus pratique d'aller visiter ces personnes que Jésus appelle ici « frères, sœurs et mères ». Car ils peuvent être nos contemporains. En effet, il y a quand même des gens qui font la volonté de Dieu, ça existe. Surtout que Jésus ne parle pas ici de super champions intergalactiques de la foi, comme ceux qui pourraient faire parfaitement la volonté de Dieu, ce n'est pas possible. Et puis, il étend la main vers les gens qui sont en train de l'écouter, c'est des personnes tout à fait normales, des disciples comme nous ce soir, qui nous sommes arrêtés quelques instants pour penser à Jésus. Les disciples et même les apôtres de Jésus, si on regarde dans l'Évangile, ce ne sont pas des mutants qui seraient absolument parfaits. Eux aussi, ils ont du mal à comprendre ce que dit Jésus, ils ne comprennent rien aux ses paraboles. Eux aussi, ils hésitent, ils doutent, ils cherchent, des fois ils le trahissent et puis ensuite ils reviennent. Bon, ce sont ces gens-là, ces disciples plus ou moins fidèles que Jésus désigne de la main en disant « Voici ma mère, mes frères et ma sœur. » Alors, comme il désigne ses disciples, ceux qui sont en train de l'écouter, on peut se demander, mais alors est-ce que ces frères et sœurs dont parle Jésus, selon sa définition, ce seraient uniquement les disciples du Christ qui se sont arrêtés pour l'écouter, même si c'est imparfaitement? Alors on ne pourrait penser ça avec le début, si vous voulez, de cette description, mais dans la suite, il ouvre plus largement encore sa définition de frères et des sœurs de Jésus en disant « Mes frères, mes sœurs et ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors la condition, c'est même pas de faire à 100% tout bien comme il faut, ni même 51% pour avoir la moyenne, 51% bien écouté, 49% faire n'importe quoi, non. Mais le faire au moins un peu, au moins à 1 000 000 %, c'est déjà ça. Au moins ceux-là, ceux qui font 1 000 000 %, ils auront fait un peu la volonté du Père qui est dans les cieux. Et donc, au moins en se posant un petit début de question, au moins en s'arrêtant un instant pour écouter Dieu, ou alors, comme dans ce texte, en ayant au moins un petit geste de générosité une fois dans sa vie, en ayant donné un verre d'eau à quelqu'un qui a soif. C'est quand même possible. C'est d'ailleurs bien ce qu'a entendu l'apôtre Jean dans sa première lettre, quand il résume ainsi un peu l'essentiel de sa foi. Jean nous dit « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, car Dieu est amour. » Donc quiconque aime, aime au moins un tout petit peu, véritablement, est enfant de Dieu, nous dit Jean, et donc puisqu'on est enfant de Dieu, que Jésus est fils de Dieu, ben nous sommes frères et sœurs de Jésus. Donc comment visiter le Christ, Jésus, comme le font les bergers, et comme le font encore mieux Marie et Joseph, bien sûr? Eh bien, ça sera en soignant ces plus petits d'entre les frères et sœurs de Jésus, ces frères et sœurs étant celui qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Ou plutôt, visitant ceux qui, dans chaque personne de l'humanité, même si c'est que en une étincelle, une fibre, une disposition, sont un peu à l'écoute de Dieu. Alors ces frères et sœurs existent, ils ne sont même pas loin du tout d'entre nous, bien sûr, mais il faut simplement d'abord apprendre à les reconnaître. Et parfois, ce n'est pas si évident à trouver ce petit frère ou cette petite sœur de Jésus, comme le bébé Jésus, qui était dans un endroit improbable finalement, mais que les bergers arrivent à retrouver dans l'écurie d'une ferme, finalement, grâce à l'indication d'un ange. Heureusement qu'ils ont eu cet ange. Alors pour nous, cet ange, ben c'est la prière. C'est la prière ou la lecture de la Bible dans un esprit de prière, ou la discussion avec d'autres dans un esprit de prière pour recevoir ce quelque chose qui vient de Dieu et qui nous éclaire, pour avoir un peu le regard qu'a Dieu sur la réalité du monde et sur les gens, sur les êtres qui nous entourent, ou bien même sur nous-mêmes aussi. Toutes ces personnes que nous croyons connaître, finalement la jugeant superficiellement à l'enveloppe, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons faire comme de rentrer dans une écurie et trouver là, dans un endroit improbable, eh bien, cette merveille de salut pour le monde qu'est Jésus, le bébé Jésus, pour l'instant pas bien intéressant. Alors avec l'aide de Dieu, nous pouvons recevoir donc une indication précieuse pour reconnaître le moindre des petits frères et des petites sœurs de Jésus, même bien cachés dans un endroit absolument improbable. Car oui, dans toute personne, ce petit enfant de Dieu existe. C'est en fait une promesse que nous fait Jésus. C'est ce que lui-même vient chercher dans l'humanité. C'est ce qu'il vient visiter, ce qu'il vient soigner, ce qu'il vient nourrir, ce qu'il vient abreuver, ce qu'il vient libérer en chacune et en chacun de nous, car il sait que ce petit Jésus existe au plus profond de chacun de nous, de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant. Pourtant, nous avons, comme les disciples, le sentiment d'être bien moyens et que l'humanité a de bien mauvais côtés aussi. Un côté sale gosse, peut-être, ou un côté bouc, on peut le dire autrement. Mais Jésus n'est pas naïf et sa parabole dit bien qu'il n'y a pas seulement de gentilles petites brebis, que tout le monde il est gentil, tout le monde il est mignon, des bonnes gentilles petites brebis, toutes douces, toutes blanches. Non, il sait qu'il y a aussi de sales boucs puants. Hélas. Alors le berger de la parabole va voir son troupeau, il le passe en revue soigneusement, examinant toutes choses, et il sépare les brebis d'avec les boucs. Il recueille chacune des brebis pour s'en occuper avec tous les bons soins, plein d'amour qu'a un berger pour chacune de ses brebis, même malades, perdues, pas très en forme, et il élimine les boucs. Alors on pourrait voir une menace dans cette parabole. Et encore, je ne vous ai lu que le début, je ne vous ai pas lu la suite, où on parle des boucs qui sont jetés dans des ténèbres et dans des flammes de feu. Mais on voit bien finalement que chacun de nous est à la fois brebis par certains côtés et bouc par d'autres côtés. En effet, pour être regardé comme un agneau par Dieu, nous dit Jésus, il suffit d'avoir au moins une fois dans sa vie eu un petit geste de vraie bonté pour quelqu'un, une petite visite, un petit verre d'eau. Et puis pour être reconnu bouc, il suffit d'avoir une fois dans sa vie négligé de faire un petit geste de bonté pour quelqu'un. Donc nous sommes à la fois dignes d'être appelés brebis et d'être appelés boucs, en fait, de cette parabole. Le jugement de Dieu ne sélectionne pas certaines personnes parce qu'elles seraient plus boucs que d'autres ou plus brebis que d'autres. Dieu ne garde pas certaines personnes pour laisser tomber d'autres personnes. Quelle horreur et quelle contradiction avec toute parole et tout geste du Christ pendant sa vie tout entière. Mais ce que nous dit Jésus, c'est que le jugement de Dieu, il va dénicher le moindre tout petit agneau qui est en chacun, même s'il est au milieu de tout un troupeau de boucs puants et plus grands que le petit agneau. Il retrouve cet agneau, il le visite, il le nourrit pour qu'il le grandisse, il le soigne quand il est malade, sans lui en vouloir de ne pas être très en forme, bien sûr. Comment pourrait-on ? Et puis il le visite quand il est emprisonné par tout un tas de boucs pour essayer de le libérer et qu'il puisse aller, je dirais, vivre, grandir et être heureux. Alors il n'y a pas que les chrétiens libéraux qui voient ainsi Dieu sauver toute personne par son amour en Christ. Les chrétiens des trois premiers siècles ont souvent représenté Jésus comme le berger de cette parabole. C'est une des images les plus fréquentes au cours des IIIe siècles que l'on trouve par exemple dans les catacombes de Rome. Le Christ est représenté en berger, séparant les brebis des boucs, exactement comme dans cette parabole. Au pied de Jésus, il y a une brebis, il y a un bouc, mais sur les épaules de ce berger, il y a un bouc. C'est-à-dire que les chrétiens des trois premiers siècles, ils ont vu comme Jésus comme sauvant même les boucs, comme quelqu'un qui a simplement un tout petit côté brebis bien caché derrière l'apparence d'un bouc. Alors cette image, je l'ai mise sur la feuille qu'on vous donnera à la sortie, que vous pourrez prendre à la sortie avec le texte de ce que je vous raconte maintenant. Vous la verrez, cette image donc du 3e ou 4e, 3e siècle en fait. Et donc, c'est comme ça que les chrétiens ont compris vraiment la grâce de Dieu manifestée en Christ. Le Christ nous montre que Dieu nous espère et nous recherche quand bien même nous apparaîtrions comme un bouc aux yeux de tous et à nos propres yeux, parce que lui, Dieu, nous connaît, il est plus grand que notre cœur, il sait bien qu'au plus profond de nous existe cette brebis, au moins en embryon, au moins comme une espérance de toute petite brebis future. Alors voilà ce que sont les frères et les sœurs de Jésus, les frères et les sœurs du Christ. Le monde en est rempli bien plus que nous ne le pensions. Nous sommes, vous êtes, un petit frère, une petite sœur du Christ. Non seulement nous pourrons donc nourrir, abreuver, soigner, libérer le meilleur en visitant ces plus petits d'entre les frères et sœurs du Christ, mais nous aurons la joie aussi d'être en contact vivant avec le Christ lui-même, nous dit Jésus, et c'est vrai. Non seulement nous ferons réellement une œuvre de salut en visitant ces petits enfants de Dieu, en les remettant sur le dessus, en les aidant à grandir, à s'épanouir, mais en plus, ils sont d'une telle beauté, ces petits frères et sœurs du Christ qui sont en chacun, qu'en allant les visiter, nous aurons vraiment une grande joie. Et en plus, nous aurons une part de quelque chose qui va nous grandir, qui va nous aider dans notre foi, qui va nous développer notre espérance, qui va enrichir notre amour d'un amour tout neuf, comme si nous avions rencontré le Christ vivant. Noël est donc une bonne occasion de nous réjouir de ce salut de Dieu, de cet amour puissant de Dieu qui ne se lasse jamais de chercher à faire naître et grandir en nous l'enfant de Dieu. Alors l'Évangile raconte que les bergers ont été divinement instruits par l'ange et pouvant alors manifester le Christ aux yeux du monde. Eh bien cet Évangile de Noël nous invite à nous laisser instruire donc dans la prière pour faire de même et puis savoir comment, avec l'aide de Dieu, nous pourrons témoigner de cet Évangile dans le monde et donner à manger à ces petits Jésus comme Marie le faisait, protéger comme Joseph le faisait, ce petit Jésus. Et avec l'aide de Dieu, nous pourrons peut-être éliminer aussi quelques boucs puants qui encombrent notre être, qui emprisonnent, qui gâchent la vie à la plus belle des petites brebis qui est en nous. Mais il y a quand même une chose, je pense, que nous ne pourrons pas faire et qu'il ne vaut mieux ne pas chercher à faire, c'est d'éliminer les boucs qui sont chez les autres. C'est trop délicat, c'est trop intime. Peut-être qu'on ne peut pas bien voir si bien que ça à l'intérieur des autres. Même le Christ reconnaît que ce n'est pas sa mission, finalement, de faire cela, d'arracher maintenant le mal qui est en nous. Et c'est le sens de cette autre parabole extrêmement précieuse que Jésus raconte. Il nous dit « Comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille qui est dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil et alors tu pourras y voir un peu plus clair pour savoir comment enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Bref, attendons d'être parfait pour pouvoir juger notre frère et notre sœur et essayer d'enlever le mal qui est en lui. Mais par contre, dès aujourd'hui, nous pouvons déjà espérer en Dieu pour nous aider à nous purifier nous-mêmes, ce qui n'est pas facile. Et puis nous pouvons partir visiter le Christ réellement présent dans le monde que Dieu aime et l'aider à vivre et à grandir en chacun. Amen. Un grand merci donc à Sylvie Jugnot qui vient de nous chanter donc le Quia Respexit du Magnificat de Bach, et puis à Jean-Dominique Pasquet qui l'a accompagné et puis qui nous a joué des Noëls anciens donc aux grandes orgues. Alors à la sortie, il y aura un moment d'amitié pour ceux qui le désirent, donc derrière la grande porte qui est voilà au fond du chœur. Et puis ça, c'est une occasion voilà de partage. Sinon demain il y a le culte de Noël avec James Woody et moi-même. Et puis vous trouverez donc sur la table là-bas le texte de la méditation que je vous ai proposé. Et puis il y a aussi des feuilles roses, donc le bulletin de notre paroisse est plein d'éléments donc pour suivre les activités donc de l'oratoire. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. C'est vrai que nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu. L'offrande est un témoignage de notre reconnaissance, de notre louange à Dieu. Nous prions Dieu. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Tu nous as donné celui qui ouvre toutes les espérances. Tu nous as donné celui que nous cherchons tous à tâtons, l'espérance que les prophètes des temps anciens avaient entrevue. Tout cela, cette joie, cet amour, cette espérance, tu nous l'as donné en Christ. Oui, ton amour, ta parole faite chair, source de retournement de situation, source de mille bonnes surprises pour notre vie, énergie et lumière pour nous aider à être bénédiction pour d'autres. Seigneur, cela, tu nous l'as donné en Christ. Alors avec tous tes enfants rassemblés dans le monde en ce jour de Noël, nous te rendons grâce pour tous tes dons. Tu es vraiment notre Père qui est dans les cieux. Ensemble, nous te disons cette prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et vous pouvez déjà préparer dans le psautier français, le psaume 36, dont je vous proposerai de chanter les deux premières strophes, dès que nous aurons reçu finalement la bénédiction que nous allons recevoir ensemble, bénédiction qui vient de la part de Dieu. Maintenant, Seigneur, tu laisses tes serviteurs s'en aller en paix dans le monde. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soit sur chacune et chacun d'entre vous, sans condition. Oui, que la grâce de Dieu soit sur ceux qui vous sont chers, qu'elle soit sur les isolés et les désespérés, soit sur celles et ceux qui n'ont pas encore la foi, pas tellement d'espérance, ou qui manquent d'un amour qui les aime. Oui, vraiment, fais rayonner tous ces dons sur chacune et sur chacun. Ô Éternel notre Dieu, oui, que ta bonté manifestée en Christ illumine toute la terre dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. et joyeux Noël à tous.